Sur ça, bien, c'est intéressant parce que je savais pas que je prêcherais ici ce matin, et à travers la présidence, à travers les cantiques, à travers les sujets de louange, eh bien, le Seigneur répond à vos prières. Il confirme finalement qu'il m'a conduit dans le message que je devais vous apporter ce matin. Et ça sera dans l'Évangile de Luc. Donc, on regardera ensemble l'Évangile de Luc ce matin. Et je vous invite à tourner dans l'Évangile de Luc au chapitre 23. Alors, pendant que vous cherchez, bien, si on demandait à quelqu'un de citer les dernières paroles de Jésus, que Jésus a prononcées au moment de mourir, eh bien, il y a plusieurs qui répondraient, celle-là, elle est facile, hein, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » D'autres diraient, « Ben, il a dit, j'ai soif. » Il a dit aussi à Marie, « Femme, voici ton fils. » Et à son bien-aimé disciple, « Eh bien, voici ta mère. » Il a aussi dit, hein, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis aux malfaiteurs. » Mais quelle est la dernière parole que Jésus a prononcée? Oui. Parce que s'il avait dit tout est accompli, on aurait dit puis inexpirant. Mais il y a une autre parole qu'il a dit et on va regarder ça après. Et en lisant le récit de la crucifixion de Jésus dans les quatre évangiles, j'ai réalisé, c'est pour ça que je vous ai fait tourner dans Luc, j'ai réalisé que seul Luc avait cru bon de mettre par écrit ces paroles que nous nous apprêtons à lire. Ce matin, je me suis demandé pour quelle raison il avait été aussi le seul à mettre par écrit ces paroles prononcées par Jésus. Et en réfléchissant, eh bien, je me suis dit que je ne devais pas être surpris puisque Luc n'était pas un apôtre, mais il était un médecin, et qu'il était donc normal qu'il se soit intéressé à connaître les dernières paroles ou la dernière parole prononcée par quelqu'un au moment de mourir. Et quelles sont donc ces dernières paroles que Jésus a prononcées? Bon, je vous ai pas piégé ce matin. Peut-être que moi, si on m'avait posé la question du haut de la chair, j'aurais probablement répondu rapidement, comme vous, « Tout est accompli ». Il est écrit dès le début de son évangile, Luc écrit dès le début de son évangile, que sachant que plusieurs personnes avaient essayé d'écrire le récit des événements qui s'étaient passés parmi les disciples, il va à son tour se renseigner. Donc, c'est pas un apôtre, mais c'est quelqu'un qui, suite à une demande de Théophile, entre autres, eh bien, il va faire des démarches. Il va faire des démarches pour voir si ce qu'on raconte à propos de Jésus, il va vérifier pour voir si ce qu'on dit à propos de Jésus, c'est véridique. Donc, il va aller voir des gens qui ont été sauvés. Il va aller voir des gens qui ont été sauvés de la maladie, qui ont rencontré le Seigneur, qui vont lui partager ce que le Seigneur a fait dans sa vie, ce que le Seigneur leur a dit aussi, ce qu'ils ont entendu aussi de la part du Seigneur, et il va mettre ça par écrit. Et on voit que par écrit, ça va coïncider avec les trois autres évangiles, particulièrement celle de Marc et celui de Matthieu. Et c'est intéressant parce que il dit dans son texte, hein, dans Luc chapitre 1, les versets 1 à 4, il dit, « À mon tour, je vais me renseigner pour découvrir exactement tout ce qui est arrivé dans la vie de Jésus depuis sa naissance jusqu'au moment où il est mort sur la croix. » Et si quelqu'un lit la Bible, il va trouver le récit complet de sa crucifixion. Et tous ceux qui sont, on doit dire quand même, à tous ceux qui ont été crucifiés, qui ont été suspendus sur une croix, eh bien, sont morts. Personne n'est jamais sorti vivant en étant suspendu sur une croix. C'est encore, on le dit aujourd'hui, c'est encore un des moyens de torture les plus terribles que l'homme a pu inventer depuis que l'homme existe. Si on vous condamnait à être crucifié, vous pouviez être certain que vous alliez mourir. Et en ce qui me concerne, Jésus, ce n'est pas le fait qu'il soit mort qui devrait nous surprendre, mais plutôt la façon qu'il est mort, parce que la mort n'a pas eu le dernier mot avec Jésus. C'est plutôt Jésus qui a eu le dernier mot avec la mort. La mort n'a pas pu se rendre maître de Jésus, c'est lui qui s'est plutôt rendu maître de la mort. Je vous invite à tourner, je vous ai dit, au chapitre 23 de l'Évangile de Luc. Nous allons lire les versets 44 à 49. Il était déjà environ midi, quand le soleil cessa de briller, ou dans d'autres versions, l'obscurité. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le voile du temple se déchira par le milieu. Donc, il y a donc 3 heures d'obscurité totale sur toute la terre. Voici maintenant les dernières paroles que Jésus prononça avant de rendre son dernier souffle. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il rendit son dernier souffle. Donc, Luc vient appuyer, en plus que c'est vraiment ses dernières paroles, puisqu'il dit, en ayant prononcé ces paroles, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et il dit, après avoir dit ces paroles, il rendit son dernier souffle. Donc, moi, je serais plutôt porté à penser qu'il a dit, tout est accompli, et qu'après, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et puis il expira. Ça a du bon sens, non? Bon, j'en fais pas un dogme, mais je vous dis, de la façon que je lis les paroles de Jésus, ce serait plutôt plausible que tout est accompli. Eh bien, vu que son œuvre est maintenant accomplie, il peut partir en paix, il sait où il s'en va de toute façon, et là, eh bien, il expire. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui étaient venus en foule assistaient à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent en se frappant à la poitrine de tristesse. Tous les amis de Jésus, ainsi que les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient en distance pour regarder ce qui se passait. Et dans d'autres versions, on dit qu'ils regardaient à distance tout en se frappant à la poitrine. Je sais que personne n'aime penser à cela, mais les derniers mots du verset 46 nous portent à réfléchir, car un jour, frères et sœurs, notre prochain souffle sera notre dernier. Mon prochain souffle sera mon dernier. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, et je ne sais pas comment, mais un jour, ce prochain souffle qui sortira de ma bouche sera mon dernier. Voir vers qui alors se tourneront mes dernières pensées et quelles seront les dernières paroles que je prononcerai. Quand arrivera le moment de lancer votre dernier souffle, frères et sœurs, vers qui se tourneront vos dernières pensées et quelles seront les dernières paroles que vous pensez que vous prononcerez avant de mourir? Je trouve cela intéressant que les quatre personnes qui ont écrit les évangiles ne se sont pas limitées à écrire simplement que Jésus était mort, mais qu'ils ont cru bon, tous les quatre, de rapporter ces dernières paroles. Pourquoi? Regardez Matthieu. Hein? Matthieu écrit, allez-y pas, je vais vous citer les versets. Jésus s'écria d'une voix forte, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. C'est intéressant de savoir où on va placer l'avant-dernier verset. Hein? Marc rapporte les mêmes paroles que Matthieu, mais ajoute, « Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. » Luc écrit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains, et en disant ces paroles, il expira. » Jean écrit, il dit, « Tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. » Donc, on ne peut pas en faire un dogme, hein? Voilà. Non seulement ils ont tous écrit sensiblement la même chose en disant que son esprit est retourné directement à Dieu, mais les quatre frères et sœurs, les quatre évangélistes voulaient que vous le sachiez et voulaient que je connaisse les dernières paroles de Jésus. Pourquoi? Pourquoi? C'est une bonne question à se poser. Pourquoi? Quand on renvoie au salon funéraire rencontrer des gens, on leur demande jamais quelles ont été ses dernières paroles. Pourquoi, dans le cas de Jésus, les quatre évangélistes ont cru bon de citer les dernières paroles de Jésus? Bonne question, n'est-ce pas? Non seulement ils ont tous écrit sensiblement la même chose en disant qu'encore une fois, je le répète, que son esprit était retourné directement à Dieu, mais les quatre voulaient que nous le sachions. Pourquoi? Il a dit, mort, tu n'auras pas le dernier mot, jamais le dernier mot. Et la dernière chose qui figurait sur sa liste de choses à faire avant de mourir, c'était de mourir dans les mains de Dieu. Frères et sœurs, c'est la seule façon de mourir. C'est-à-dire mourir et savoir que vous êtes entre les mains de Dieu. Et c'est cette dernière déclaration que Jésus a fait avant de mourir. Et Jésus nous a rendu un grand service. Un grand service, il dit, « Permettez-moi de vous montrer comment mourir de la bonne façon. Laissez-moi vous montrer comment mourir et savoir avant de mourir que lorsque vous allez mourir en confiant votre éternité dans les mains de Dieu. » Il y a trois choses que j'aimerais regarder avec vous ce matin que vous devriez être certain de savoir avant de rendre votre dernier souffle, frères et sœurs. Premièrement, que vous vivez une relation intime et personnelle avec Dieu. Chaque partie de cette affirmation faite par Jésus est extrêmement importante, en particulier le premier mot. Quel était ce premier mot, frères et sœurs? Écoutez bien. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il est possible que certains ne s'en souviennent pas, mais nous retrouvons ces paroles prononcées par Jésus dans le psaume 31, le verset 5. David dit, et c'est David qui va le citer, « Si vous aviez été un juif à cette époque et que vous aviez entendu Jésus prononcer sur cette croix ces paroles, vous auriez tout de suite, je connais ces paroles. Si vous aviez été un juif et que vous aviez entendu Jésus faire cette prière, vous auriez dit, attends une minute, Jésus a prononcé cette prière, mais elle est différente de celle que je connais en tant que juif. » Parce que même si à l'origine c'est le roi David qui a écrit cette prière, Jésus l'a récitée d'une manière qu'aucun juif ne l'avait jamais faite dans le passé à cause d'un seul mot, et ce mot c'est le mot Père. Nous ne trouvons aucune trace qu'un Juif ait jamais récité cette prière comme Jésus l'a fait. Nous n'avons aucune preuve qu'un parent juif ait jamais enseigné à son enfant ou à ses enfants d'appeler Dieu Père. Jésus voulait que le monde sache qu'il avait une relation de cœur à cœur avec le Père, en d'autres mots, qu'il avait une relation étroite avec le Père, et c'est ce qu'il nous laisse aussi comme message en donnant « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». S'il y avait bien une chose qui irritait tellement les pharisiens concernant Jésus, c'était sa façon de parler lorsqu'il faisait référence à Dieu comme étant son Père. Et chose étonnante, frères et sœurs, il n'y a qu'une seule chose que nous connaissons concernant ce que Jésus a dit lorsqu'il était adolescent, c'est-à-dire plusieurs années avant même qu'il commence son ministère. Est-ce que vous savez ce qu'il a dit? Une parole, regardez. Nous trouvons dans les Évangiles, c'est dans Luc chapitre 2, verset 49, nous trouvons une seule chose dans les Évangiles que Jésus a dit avant d'avoir 30 ans. Il avait environ 2 ans, donc là, ça vous commence à vous indiquer, quand il a prononcé ces paroles, et c'est la seule fois qu'il nous est rapporté ce qu'il a dit dans son enfance et dans sa jeunesse. S'adressant à ses parents, il dit, voici ce qu'il a dit. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon père? Pardon?
12 ans,
j'ai dit, oui. Ah, j'ai compris 2 ans. Ah, j'ai dit 2 ans. On en rajoute 10. Bon. J'aime mieux aussi dire que j'ai 70 ans que 70. Il me semble que ça fait moins vieux 70 que 70. Il y a toujours les 60 qu'on entend, c'est bien non plus aussi. Désolé. Voilà. Son père terrestre adoptif Joseph est là tout près de Jésus et il entend ses paroles. Mais ce que Jésus était en train de dire à son père terrestre, et ce avec tout le respect qu'il lui devait, c'était « Père, je t'aime, mais tu n'es pas mon vrai père. Dieu est mon vrai père. » Frères et sœurs, vous n'êtes pas prêts à vivre tant que vous n'êtes pas prêts à mourir. Et vous n'êtes pas prêts à mourir tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas prêts à rencontrer Dieu. De plus, vous n'êtes pas prêts à rencontrer Dieu tant et aussi longtemps que vous ne connaissez pas Dieu comme étant votre Père. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est votre Père tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas devenu son enfant. Vous ne devenez pas son enfant tant aussi longtemps que vous ne naissez pas de nouveau dans sa famille. Et vous n'êtes pas né de nouveau dans sa famille tant ou aussi longtemps que vous ne recevez pas son Fils Jésus. En d'autres mots, Dieu ne devient votre Père que lorsque vous devenez son enfant, et vous devenez son enfant seulement quand vous recevez son Fils Jésus-Christ. Quand vous mourrez, vous voulez vous assurer que votre vie est en règle avec Dieu. Et si votre vie est en règle avec Dieu, c'est parce que vous êtes en étroite relation avec le Père. Et vous êtes en étroite relation avec le Père quand vous avez reçu dans votre cœur Jésus comme votre Sauveur et comme votre Seigneur, et que vous vivez comme Dieu vous demande de vivre. Voici donc la première chose que vous devez vous assurer, que je voulais vous partager ce matin. Si vous voulez appeler Dieu le Père lorsque vous mourrez, vous devez d'abord vous assurer que vous vivez une relation personnelle et intime avec lui. Et pour ce faire, vous devez confesser que vous êtes un pécheur. Reconnaître que Jésus a pris sur lui la punition que vous méritiez pour vos péchés, c'est-à-dire avoir reçu Jésus comme Sauveur et comme Seigneur à un moment donné dans votre vie. Ça paraît facile de le dire, hein? Mais moi, je connais Guy Bovy depuis 20 ans. Ça m'a pris 20 ans à entendre Guy Bovy cracher qu'il était un pécheur, qu'il avait péché. Pendant 20 ans, Guy m'a toujours dit « Je n'ai jamais péché. » C'est fort de sortir ça de la bouche d'un athée, hein? Mais c'est ce qu'il me disait. Pourquoi? J'ai jamais péché. J'ai jamais rien fait de mal. Oui, il oubliait ce qu'il avait fait de mal. Il se limitait simplement à me partager ce qu'il avait fait de bien dans sa vie, s'occuper des enfants, pas dans un orphelinat, mais dans un centre. Et ce, quand il travaillait de nuit, puis qu'il rentrait de jour comme directeur pour s'occuper des enfants. Il mérite, hein? Il y a même des athées qui essayent de gagner, s'il y a un ciel qui essaye, en tout cas, espérer gagner leur ciel par les mérites, les bonnes choses qu'ils ont faites. C'est tatoué dans le cœur des hommes, ça. Frères et sœurs, on le sait, hein? Il y a un religieux qui sommeille dans le cœur de chaque homme. Et tant que ce religieux est là, peu importe la religion, peu importe la croyance, tant que ce religieux est là qui pense être capable de mériter le ciel à travers ce qu'il fait, eh bien, c'est peine perdue pour le Seigneur de pouvoir abattre cette forteresse. Voici alors la question, si vous mourrez aujourd'hui, si vous mourrez sur cet après-midi, seriez-vous en mesure, frères et sœurs, de prononcer le mot Père en parlant de Dieu avant de mourir? Seriez-vous capable de le dire avec confiance? La seule chose qui nous empêche de dire que Dieu est notre Père avant de mourir avec confiance, c'est si notre vie n'est pas en règle avec lui. Parce que si notre vie est en règle avec lui, Ça veut dire qu'on est capable de s'appuyer sur ses promesses. Et on est capable de dire comme Jésus, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Parce qu'on sait où cet esprit, hein, l'Ecclésiaste le dit, l'esprit, quand on meurt, l'esprit retourne à son Créateur. On sait exactement, sans craindre la colère de Dieu, on sait exactement où notre esprit s'en va pour l'éternité, en attendant de recouvrer, de retrouver un corps glorifié, un corps de ressuscité à la fin des temps. La deuxième chose que, dont vous devez être certain d'avoir avant de rendre votre dernier souffle, et que j'aimerais bien que vous le sachiez, c'est que, non seulement, premièrement, c'est que vous savez que vous avez la certitude que vous avez une relation étroite avec Dieu, mais deuxièmement, que vous avez remis votre destinée entre les mains du Père. Lorsque je mourrai, je veux non seulement savoir que Dieu est mon Père, mais je veux aussi avoir la certitude dans mon cœur que ma destinée éternelle est entre ses mains. Écoutez à nouveau ce que Jésus dit en changeant quelque peu l'ordre des mots dans ce verset. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Rappelez-vous maintenant que ce sont là les dernières paroles prononcées par Jésus dans son corps terrestre, et c'est vraiment encourageant pour nous. Frères et sœurs, mon esprit s'en va pas chez n'importe qui. Mon esprit s'en va pas à droite et à gauche. Mon esprit ne meurt pas avec mon corps. Mon esprit, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, eh bien, mon esprit s'en va entre les mains de Dieu. Je lui confie ça entre les mains. Et on va voir un peu plus loin dans le message que quand on dit entre ses mains, c'est pas entre les mains de n'importe qui. C'est pas les mains de n'importe qui. C'est les mains de celui qui tient la terre dans ses mains, qui tient l'univers dans ses mains et qui a encore de la place pour nous inclure dans ses mains pour l'éternité. On a un Dieu extraordinaire, n'est-ce pas? On a un Dieu merveilleux. Chers amis, Jésus est la seule personne qui ait jamais choisi de mourir. La plupart des personnes qui sont décédées suite à la crucifixion sont mortes asphyxiées ou déshydratées. Ce n'est pas de cette façon que Jésus est mort parce qu'il a choisi comment il allait mourir. Et comment on sait cela? Écoutez ce qu'il dit en parlant de sa vie physique dans Jean chapitre 10, verset 18, pour ceux qui ont leur Bible. Je vais vous le dire un petit peu en paraphrasant, pour ceux qui ne sont pas habitués avec le texte, parce que je l'ai écrit en Louis II. C'est comme s'il disait, Jésus, personne ne m'enlève ma vie, personne ne prend ma vie. Si quelqu'un prend ma vie, c'est parce que moi, j'ai décidé de la donner, ma vie. C'est ça qu'il est en train de dire dans le texte. Hein? Il n'y a personne qui la prend, ma vie. Moi, c'est parce que moi, j'ai décidé de la donner volontairement, ma vie. Et il dit plus que ça, j'ai le pouvoir de la donner. Il n'y a personne qui peut exercer aucun pouvoir sur moi si le Père ne le permet pas. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il est en train de parler de sa résurrection. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, il dit. Jésus a volontairement donné sa vie, nous voyons cela dans le verbe « donner ». Ce qui est intéressant, quand on dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, si vous allez dans le grec, le mot « donner » dans Jean 3,16 et dans le « donner » dans ce mot-ci, il n'est pas, ça n'a pas la même signification. Le mot « donner » ici en grec signifie « remettre »,« déposer ». Alors, il dit ici, si on aurait pris le texte encore des paroles de Jésus, « Père, entre tes mains », je remets, c'est ça, je donne mon esprit, mais je dépose mon esprit entre tes mains. Et regarde ce que ça donne. Le verbe donner ou remettre est un mot qu'on utilisait dans le milieu des finances pour mentionner qu'on avait déposé soit un objet de valeur dans un endroit sûr ou de l'argent dans une banque. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui avez déjà loué un coffret de sûreté à la banque dans lequel vous avez mis quelques objets de famille que vous avez hérités et que vous avez collectionnés au fil des ans. Des choses qui ont une valeur particulière pour vous et que vous voulez transmettre plus tard aux membres de votre famille. Ils sont là dans un coffret de sûreté où personne ne peut les atteindre, sauf vous. C'est la même idée que Jésus fait ressortir ici. En d'autres mots, ce qu'il dit, c'est ceci. Père, dans ton coffre-fort, je dépose mon esprit, ou je te remets mon esprit. Et je sais que là où je le dépose et à qui je le remets, aucun voleur ne pourra s'en emparer. Frères et sœurs, nous savons qu'un dépôt est quelque chose que nous faisons de notre plein gré. Aucune banque ne peut vous obliger à déposer votre argent chez elle. Lorsque vous déposez votre argent, c'est volontairement que vous le faites. Vous n'êtes jamais obligé de le faire. Aujourd'hui, il y a des circonstances atténuantes, mais bon, voilà. En principe, il n'y a personne qui veut plus obliger. Alors, vous savez maintenant, quand vous voulez avoir un prêt pour une maison, les banques peuvent vous obliger à tout transférer vos fonds dans leur succursale pour qu'on puisse vous prêter une hypothèque. Et les contrats de mariage, bien, ça a foutu le camp, ça ne veut plus rien savoir, parce qu'en principe, avant, on n'était pas obligé de demander à l'épouse de signer. Mais on le fait maintenant parce qu'on peut saisir les biens de l'épouse quand on a un contrat de mariage. Donc, on oblige les gens. Si vous voulez avoir une maison aujourd'hui, bien, ta femme, elle doit signer aussi. Et vu que la femme est sur le marché du travail, souvent, elle a plus de patrimoine que le mari. Alors, voilà pourquoi maintenant, les banques font du forcing pour faire en sorte que les deux puissent signer. C'est une des premières questions qu'on vous pose hein, quand vous faites une demande de prêt. Avez-vous un contrat de mariage? C'est la première, une des premières choses qu'on vous demande, ça. Et si vous dites oui, votre femme va être obligée de venir avec vous la prochaine fois pour signer sur la demande. C'est un peu comme ça. Mais en principe, il n'y a personne qui peut nous obliger à transférer nos fonds dans une banque ou dans une banque quelconque. Jésus a volontairement abandonné son esprit à Dieu. Il a volontairement déposé son esprit et sa vie entre les mains de son Père. Et si vous retournez dans l'Ancien Testament et que vous prenez le temps de regarder les sacrifices qui étaient accomplis, aucun d'entre eux était fait sur une base volontaire. Ils étaient tous imposés par la loi. Vous n'avez jamais vu un agneau qui a décidé de sauter sur l'autel pour se faire sacrifier. Prenez-moi en disant, « Prenez-moi, je suis à vous. » On devait prendre cet agneau et le déposer ensuite sur cet autel. On devait ensuite lui tenir le cou vers le bas, condissait le couteau sur son cou. Ce n'était jamais volontaire, c'était toujours forcé, mais quand Jésus est mort, il l'a fait volontairement. Je ne sais pas qui m'a raconté ça, j'espère que ce n'est pas dans l'Église, parce que je vais vous répéter la même chose. Vous savez, l'image de l'agneau, c'est extrêmement important comme image. D'abord, on sait que l'agneau ou la brebis, ce sont des animaux, qui n'a pas vraiment de moyens de défense. Quand il arrive un danger, la seule chose que l'agneau va faire, il ne sortira pas ses griffes, puisqu'il n'y en a pas. Il va faire « bêh » et se bouffer. C'est les agneaux. Il faut faire attention parce que Jésus nous compare à des agneaux. Par rapport au monde, on n'a pas moyen de défense en dehors que le berger. Mais l'agneau, c'est extraordinaire. On m'a dit que quand on sacrifie un agneau, quand on le prend et on l'amène pour le sacrifier, le geste que l'agneau fait, c'est qu'il présente son cou pour qu'on puisse descendre le couteau et le saigner. Instinctivement, l'agneau, il tend son cou. Il sent qu'on va le prendre pour le sacrifier. Il tend son cou pour qu'on puisse le couper. Moi, quand j'ai entendu cette histoire-là la première fois, je me suis mis à pleurer. Je me suis dit, parce que j'ai vu l'image de Jésus sur la croix. L'agneau de Dieu qui a donné son sang, qui a présenté sa personne et qui a été saigné, vidé de son sang, par amour pour vous, par rapport au moment. Et Jésus a fait cette même image de cet agneau qu'on sacrifiait dans l'Ancien Testament. Il s'est simplement présenté devant Pilate. Il n'a pas cherché à se défendre. Et finalement, il a été conduit à l'abattoir comme on le faisait pour les agneaux, conduit sur cette croix. Il a dit, « Je vais mourir en plaçant mon esprit en toute confiance dans les mains de Dieu. » Rappelez-vous, vous n'êtes pas prêt à mourir avant de savoir que lorsque vous mourrez, vous vous apprêtez à déposer votre esprit entre les mains de Dieu. Et vous ne pouvez pas être prêt à le faire tant et aussi longtemps que vous n'avez pas déposé votre vie entre les mains de Dieu. Chers amis, permettez-moi de vous révéler un secret. Si Dieu est votre Père, votre vie est déjà entre ses mains. Et en fait, dans le psaume 31 que nous avons cité il y a quelques minutes, je vous invite à tourner avec moi, le psaume 31. On va lire non pas le verset que je vous ai donné tantôt, mais on va lire les versets 14 et 15, parce que David écrit quelque chose d'intéressant. Je vais le lire aussi en Louis II. C'est des passages qu'on devrait, je pense, apprendre par cœur. En tout cas, c'est forcé d'apprendre par cœur. David dit ceci, « Mais c'est en toi que je me confie. » Il est en train de parler à l'Éternel. Hein? Il dit, « Ô Éternel, c'est en toi que je me confie. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main, c'est-à-dire ma vie est entre tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. » Hey, David savait dans l'Ancien Testament que c'était par grâce qu'on était sauvés. Ma destinée est dans ta main, dit-il. Elle n'est pas dans les mains du gouvernement, elle n'est pas dans les mains de certains groupes terroristes, elle n'est pas entre les mains de certains criminels. Ma destinée n'a d'autre main que celle de Dieu. J'espère que c'est votre cas ce matin. Et je vous le rappelle, frères et sœurs, il n'y a pas d'endroit plus sûr dans le monde entier que celui de remettre notre destinée entre les mains de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que ses mains ne sont jamais trop pleines. Ses mains ne tremblent jamais, elles sont sûres. Elles ne vous laisseront jamais tomber. Pourquoi devrions-nous craindre la mort quand nous savons que nous avons placé notre destinée entre les mains les plus sûres, et les plus douces de l'univers? Des mains qui ne trompent jamais. Des mains qui ne font jamais rien de mal. Des mains qui agissent toujours pour notre bien. Des mains qui apaisent nos cœurs parce que nous savons que nous pouvons déposer notre esprit entre les mains d'un Dieu qui nous aime plus que quiconque dans tout l'univers et qui veut passer l'éternité avec nous. Quelle façon de mourir que celui de connaître personnellement Dieu en tant que Père. Quelle façon de mourir que de s'en remettre entièrement entre les mains de Dieu. N'est-il pas écrit, Deutéronome 33:3, que tous ses saints sont dans sa main? C'est-à-dire que tous ceux qui lui appartiennent sont dans sa main? Et les saints dont il parle, ce sont ceux qui se sont tenus à ses pieds, dit, continuant dans Deutéronome, ce sont ceux qui se sont tenus à ses pieds et qui ont reçu ses paroles. Ils ne se sont pas contentés de les écouter le dimanche, mais ils ont mis en pratique ce qu'ils ont entendu le dimanche, parce qu'ils savent que cette parole, elle vient de Dieu. Et qu'ils aiment le Seigneur. Et qu'ils veulent lui plaire. Ésaïe 49:16. Nos mains ne sont-ils pas déjà gravées sur ses mains? Moi, j'ai toujours dit à un moment donné, dans ses mains. Mais l'image était belle quand j'ai relu ça, sur ses mains. Frères et sœurs, quand le matin arrive et que l'univers se réveille, Dieu lève les mains pour bénir son univers, bénir sa création. Et qu'est-ce qu'il voit? La première chose sur ses mains, il voit vos noms, il voit mon nom qui est gravé sur ses mains. C'est extraordinaire ça, hein? Comment Dieu peut-il nous oublier? Vous êtes tatoués sur les mains de Dieu, frères et sœurs. C'est extraordinaire, ça. C'est une belle image, c'est un beau verset, ce qu'on trouve dans Ésaïe. Nos noms ne sont-ils pas déjà gravés sur ses mains? Voici maintenant la dernière chose à se rappeler. Nous n'avons pas peur de mourir, parce que nous savons que si la première chose que nous devons savoir avant de rendre notre dernier souffle, c'est être certain de vivre une relation avec Dieu. Si la deuxième chose que nous devons savoir avec certitude avant de rendre notre dernier souffle, c'est d'avoir remis votre destinée, ma destinée, entre les mains du Père, la dernière chose qui est importante de savoir, c'est la suivante. Nous pouvons faire pleinement confiance en Dieu en tout temps, y compris même au moment de notre mort. Il y a un dernier mot que je voudrais que vous remarquiez dans cette affirmation que Jésus a faite. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Pas mon argent, pas ma maison, pas ma voiture, pas le beau corps que je me suis construit, pas le mien, mais pour les plus jeunes. » Pas ce beau corps, je me suis construit tout au long des années. Il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ce que Jésus a déposé, frères et sœurs, auprès de son Père Céleste, ce n'est pas son corps, puisqu'il allait rester encore suspendu sur la croix pendant quelques instants. De plus, ce corps allait non seulement être percé par la lance d'un soldat, mais il allait être ensuite enveloppé d'épices et de linge et être placé dans un tombeau glacé. Ce que Jésus a remis, ce qu'il a remis entre les mains de son Père, a déposé entre les mains de son Père, c'était la partie la plus précieuse de tout votre être. Celle qui nous distingue des animaux. Celle qui nous distingue des plantes. C'est la seule partie de nous, d'ailleurs, qui est appelée à durer pour l'éternité. Et cette partie, c'est notre esprit. C'est votre esprit. Chers frères et sœurs, c'est la partie la plus précieuse qui se trouve en vous. Quant à votre corps, il ne tiendra pas le coup très longtemps. Vous pouvez courir le marathon, le triathlon, prendre des stéroïdes, contrôler votre poids. Vous finirez bien par mourir un jour. Parce que la partie la plus précieuse de vous, ce n'est pas votre corps, mais votre esprit qui se trouve à l'intérieur de vous. En théologie, on dit que le corps, c'est simplement l'enveloppe qui recouvre notre âme. Bon, moi, je dis qu'il y en a qui pensent que l'âme et l'esprit sont ensemble. Moi, je suis en trois parties. On n'est pas là pour faire de la théologie, mais en tout cas, c'est le corps, c'est simplement une enveloppe qui recouvre notre âme et notre esprit. Votre corps va disparaître au moment prévu par Dieu. Mais votre esprit est appelé à vivre pour l'éternité, soit avec Dieu, soit sans Dieu. Voilà pourquoi vous ne devriez pas avoir peur de la mort, vous, si vous connaissez le Seigneur Jésus, parce que vous allez déposer ou remettre entre les mains du Père, qui vit pour toujours, la seule chose qui va durer pour l'éternité. Pourquoi les quatre évangélistes ont-ils cru de raconter les derniers moments de Jésus sur la croix? Ça revient à la question du début. Et je remercie Dieu qu'il l'ait fait, parce que la mort de Jésus est un modèle qui nous a été laissé pour nous montrer comment nous devrions nous aussi mourir, frères et sœurs. La mort ne nous fait plus peur parce que nous savons à qui nous avons placé notre confiance et en quelles mains nous avons remis notre destinée éternelle. Notre destinée est dans les mains d'un Dieu qui nous aime. Quand je lis cette histoire, je sais que je peux mourir en paix. Peut-être que certains se disent, oui, mais pourquoi avons-nous quand même peur de la mort? Tout simplement parce que nous nous aventurons dans l'inconnu quand même. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous quitterez cette terre, vous ne passerez pas quelques années là-haut pour revenir ensuite raconter aux gens ce qui s'est passé. Nous ne savons pas ce qui se passe au ciel, et gloire à Dieu. Parce que le problème, c'est que si Dieu nous avait tout raconté, on n'aurait pas besoin de la foi. La foi, non seulement nous plaçons notre foi dans ce qui nous a été raconté, mais aussi dans ce que nous n'avons pas vu, mais que nous croyons. Nous ne pouvons, savons pas ce qui se passe au ciel, mais ce que nous pouvons être certains, parce que la Bible nous le révèle, c'est que nous serons un jour avec le Seigneur et nous régnerons avec lui pour l'éternité sur une nouvelle terre qu'il créera et le moment venu. Et frères et sœurs, le fait de savoir que nous serons avec un Dieu qui nous aime, qui est digne de confiance, en qui il n'y a point de mal, je me répète, qui veut le meilleur pour nous et qui se prépare à nous accorder un héritage au-delà de tout ce que le monde peut nous offrir, devrait nous réjouir et nous encourager à persévérer. Un jour, nous quitterons ce monde, le seul monde dans lequel nous avons vécu, pour entrer dans un autre monde que nous n'avons jamais vu. Il y a toutes sortes de dessins sur le paradis qui ont été faits, des peintures qui ont été peintes sur le paradis, mais on ne peut pas s'imaginer à quoi ressemble le paradis, et on ne peut même pas penser ce que sera la nouvelle terre, ce que sera la nouvelle Jérusalem. On a une description. Une description, on sait qu'il n'y aura pas de nuit dans la nouvelle Jérusalem, puisque Dieu va habiter au milieu de son peuple et que sa gloire va éclairer. Va éclairer son peuple. Mais pour le reste, il y a certaines choses qui sont dites en Apocalypse, mais pour décrire le décor qu'il y aura, la grosseur de la nouvelle terre, il n'y a rien qui nous est dit. Il n'y a rien qui nous est dit. Le nombre de croyants qui seront sur cette nouvelle terre, il n'y a rien qui nous est dit. On doit s'appuyer, finalement, sur les informations que nous avons dans la parole. Ne vous fiez surtout pas sur ceux qui sont descendus 25 minutes en enfer, puis qui sont montés, puis qui viennent vous raconter. Hein, ça court sur Internet, c'est la mode, ça. Hein? C'est incroyable le nombre de personnes qui descendent en enfer pour venir témoigner devant l'Église qu'ils ont vu, alors que la Bible est claire, quand on va en enfer, on n'y sort plus. Hein? On rentre une fois, il n'y a pas de porte de sortie en enfer, hein? Il y a juste des portes d'entrée. Hein? Ouais. Alors ça, c'est simplement des choses pour intéresser, pour essayer de détourner la foi, les chrétiens de leur foi, et de mettre l'accent sur l'enfer, alors que l'accent est sur le diable, alors que l'accent qu'on devrait mettre dans nos églises, c'est sur le Seigneur, c'est sur le paradis, et sur le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Un jour, nous quitterons ce monde, et le seul monde dans lequel nous avons vécu, pour entrer dans un autre monde que nous n'avons jamais vu. Mais voici ce que nous savons suite à cette affirmation de Jésus. Si nous le connaissons de manière personnelle, sa mort devrait tous nous libérer de la peur de la mort. Permettez-moi de le dire d'une autre façon. Ce qui est arrivé à Jésus quand il est mort, c'est ce qui nous arrive quand nous mourrons si nous connaissons Jésus. Jésus est mort en faisant cette prière afin qu'aucun enfant de Dieu ne meure sans faire aussi cette prière qu'il lui a faite. On dit que lorsque John Wesley, à son chevet, tous les pasteurs de l'Église méthodiste étaient autour de lui dans une grande pièce. Et la seule chose que John Wesley a dit, en tout cas, une des choses qui était rapportée, il a dit, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de meilleur, c'est que Dieu est pour nous. C'est une autre façon de le dire. Il savait où il s'en allait, ce bonhomme-là. Et il a dit des paroles pour encourager, finalement, l'équipe pastorale, la pastorale qui était autour de lui. C'est les pasteurs qui étaient dans les différentes églises pastorales. Ne vous découragez pas. Ce qu'il y a de bien, c'est que Dieu est pour nous. Et non pas contre nous. Que l'esprit qui est en nous est beaucoup plus fort que l'esprit qui est à l'extérieur. Comment est-ce qu'un mort, comment est-ce que quelqu'un qui est en train de rendre son dernier souffle puisse partager de telles paroles aussi encourageantes? C'est parce qu'il sait où s'en va son esprit. Il sait en qui il a remis sa vie. Et il sait ce qu'il attend pour l'éternité. Frères et sœurs, j'espère que ces paroles, que ce soit de Jésus que de d'autres croyants, je dirais pas, on n'aura pas le temps ce matin, on doit aller voter, n'est-ce pas, pour ceux qui n'ont pas été. Mais, vous pensez que c'est juste Jésus qui a dit ça? Je vous invite à aller dans Actes chapitre 7 et regarder comment Étienne est mort. Père, je remets mon esprit. Je te remets mon esprit. Étienne, il savait où il s'en allait. Étienne, il avait l'esprit de Christ en lui. Il était capable de dire à travers le chapitre 7, sensiblement, un peu comme Jésus, ne leur impute pas leur péché. Un peu comme Jésus a dit, hein? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensent qu'ils sont en train de faire une bonne cause, mais ils font l'œuvre du diable. Frères et sœurs, Étienne était prêt à partir à tel point qu'il a vu les cieux s'ouvrir et il a vu Jésus se lever. Je vois le Fils de Dieu debout à la droite du Père. Et je l'ai déjà dit dans d'autres messages, c'est le seul passage en dehors du livre d'Apocalypse, qui est un livre particulier, dans tout le Nouveau Testament, où on retrouve Jésus debout. Sinon, toutes les autres fois, il est assis à la droite du Père. Le jour où je serai sur mon lit de mort, si quelqu'un entrait dans ma chambre en pensant que je suis dans le coma et que je l'entends dire à une autre personne présente, pauvre Jacques, n'a pas eu le temps de faire une prière, eh bien, j'espère que Dieu me donnera la force de m'asseoir droit dans mon lit et lui dire, oui, j'ai fait ma prière, la même que Jésus. Ouais. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Parce que ce que Jésus a dit au moment de mourir, nous pouvons le dire nous aussi au moment de mourir. Un pasteur a raconté qu'en 1992, il était allé en Roumanie et en Hongrie pour partager la parole de Dieu aux Roumains et aux Hongrois. Aux Hongrois, oui, c'est bon, hein? Aux Hongrois. Ouais. Même si la Roumanie et la Hongrie étaient sorties du communisme en 1989, la plupart des pays de l'Est vivaient encore sous le régime communiste. Et ce pasteur raconte que lorsqu'il a dû franchir la frontière roumaine pour entrer en Hongrie, il n'a pas trouvé cela très amusant. Il dit, nous sommes arrivés à un poste de contrôle, un garde se trouvait en plein milieu de la chaussée, la main levée pour nous signaler d'arrêter. Je peux vous dire que ça se passe exactement comme dans les films. Vous voyez arriver deux gardes portant des vêtements gris sombre, le visage dur, les yeux plissés, les lèvres légèrement repliées, portant une mitraillette en bandoulière. On nous a fait signe de baisser la vitre, on nous a demandé de présenter nos passeports, et pendant qu'un garde vérifiait notre identité, le deuxième avait un genre de détecteur à métaux muni d'un miroir qu'il passait sous le dessous de la voiture pour s'assurer qu'il n'y avait rien de suspect de dissimulé sous celle-ci. Pendant ce temps, celui qui a pris mes papiers nous soumettait un interrogatoire intensif. De quel pays venez-vous? Où allez-vous? Qu'est-ce qui vous amène ici? Où habitez-vous? Et où allez-vous habiter durant votre séjour? Et il dit, c'est pas que j'ai eu très peur, mais je me demandais vraiment si on nous laisserait passer finalement. Je me disais qu'on avait fait tellement de kilomètres en voiture que si on nous refusait, on nous demandait de rebrousser chemin. On n'avait pas d'autre recours que de rebrousser chemin et de retourner aux États-Unis. Et après avoir franchi ce poste de contrôle, le pasteur dit, nous avons partagé entre nous ce que nous venions de vivre concernant ce contrôle qui nous avait été fait. Et j'ai dit, n'est-ce pas formidable? J'ai dit à mes compagnons dans la voiture, ils disent, n'est-ce pas formidable de savoir que lorsqu'un enfant de Dieu se rend son dernier souffle et qu'il arrive à la frontière du ciel, il ne se retrouve pas devant un poste de contrôle. Il a l'assurance qu'il n'y aura pas de complications, ni de détecteur de métaux, ni de vérification de passeport, ni de gardes qui vont vous poser un paquet de questions pour essayer de voir si vous avez commis une seule faute dans votre vie. Il n'y aura rien de tout cela parce que votre passeport portera la marque de l'agneau. Il a été signé et scellé par le sang de Jésus-Christ. Et ce que vous serez personnellement porte dans l'éternité et sera porté dans l'éternité par les mains de Dieu. Vous serez personnellement porté dans les mains d'un Dieu qui est là pour l'éternité avec lui. Frères et sœurs, n'oubliez pas les derniers mots prononcés par Jésus, ni le ton qu'il a utilisé. Souvent, on oublie le ton. Il est écrit, Jésus s'écria d'une voix forte. Permettez-moi maintenant de vous dire pourquoi la manière qu'il a prononcé ces mots paraît si incroyable. Parce que personne qui se trouvait suspendu sur une croix mourait en s'exprimant à haute voix. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous retrouviez sur une croix, au moment de mourir, non seulement vous étiez plus en mesure de parler, mais vous ne pouviez même plus respirer. La plupart des gens qui étaient condamnés à être crucifiés mouraient suite à un affaiblissement progressif de tous les muscles, à un arrêt progressif d'un fonctionnement de tous leurs organes vitaux, et on entendait finalement lâcher un dernier soupir. Ah! C'est tout ce qu'on entendait. Mais pas Jésus. Et j'aime ce qui est écrit au verset 46. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Frères et sœurs, il n'a pas été vaincu, il est sorti victorieux. Frères et sœurs, il a dit « Père » et tout le monde, il l'a dit une voix forte pour que tout le monde puisse l'entendre. « Père! » J'aime penser que ce que Luc a écrit au verset 48, lorsqu'il mentionne que les gens passaient devant Jésus en secouant la tête, j'aime penser qu'ils se disaient peut-être en eux-mêmes, nous n'avons jamais entendu parler qu'un crucifié suspendu pendant 6 heures sur une croix ait jamais dit une telle parole, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Frères et sœurs, nous pouvons tous mourir de la même façon que Jésus. Nous pouvons tous mourir en nous en remettant entre les mains de Dieu. Pour tous les êtres humains, la mort implique d'abandonner tout ce à quoi ils sont attachés dans ce bon monde. Leurs parents, leurs enfants, leurs amis. leur bien, leur identité, bref, tout ce qui définit leur vie ici-bas. Et au moment de quitter ce monde, nous allons tous laisser cela à la mort. J'ai deux petits-enfants, Ethan et Théophile. Théophile n'a pas encore 1 an et Ethan a 4 ans et demi. Je suis maintenant entré dans une époque de ma vie, ou une étape de ma vie, où je me demande si le Seigneur me laissera vivre suffisamment, longtemps, pour les voir terminer leurs études primaires ou secondaires. Et je me dis que mes chances de les voir se marier un jour diminuent avec l'âge. Je sais aussi qu'à la fin, je devrais laisser tous ceux que j'aime ici-bas en leur disant « J'espère vous revoir là-haut ». Nous savons qu'un jour viendra où nous devrons tous, en tant qu'êtres humains, lâcher prise et partir. Mais nous savons aussi que pour le chrétien, la mort implique également anticiper de nouveaux commencements. Ce n'est pas la fin de tout, ce sont de nouveaux commencements. Nous abandonnerons des corps qui nous ont aidés à servir dans cette vie de manière imparfaite, mais qui n'ont rien à voir avec ces nouveaux corps dont nous serons revêtus pour l'éternité. Nous quitterons cette vie que nous connaissons, bien agrémentée de grâce et de bons moments, mais aussi de déceptions et de douleurs. Nous laisserons à tout jamais les débats doctrinaux et les doutes qui ont parfois envahi nos cœurs au sujet de notre foi, pour nous retrouver définitivement dans la présence de Dieu à tout jamais. Je vous ai dit au tout début de ce message qu'il y a deux façons de mourir, préparé ou non préparé. Je me prépare chaque jour qui passe à cet échange qui surviendra lorsque je mourrai. Ce qui est mortel cédera la place à ce qui est immortel. Permettez-moi de vous dire comment je me prépare. Je fais pleinement confiance à Dieu et je m'en remets entre les mains de Dieu que je peux moi aussi appeler Père, parce que j'ai rencontré un jour le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il m'a visité. Je fais totalement confiance à Dieu, car je suis convaincu qu'un jour, je déposerai mon esprit, comme Jésus, entre ses mains, qui prendront ensuite mon esprit, qui l'uniront le moment voulu à un corps ressuscité. Quand je partirai, je vais déposer mon esprit dans les mains d'un Dieu qui m'aime et qui a décidé de vivre avec moi et avec lui pour l'éternité. Rappelez-vous, en terminant, vous ne pouvez pas être prêt à vivre tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas prêt à mourir. Prêt à mourir à vous-même. Et vous n'êtes pas prêt à mourir à vous-même tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas prêt à renoncer à votre ancienne vie. Et tant que vous n'êtes pas prêt à remettre votre vie entre les mains de Dieu. C'est comme ça que Jésus est mort. C'est comme ça que Étienne est mort. Et merci Seigneur, parce que c'est aussi la façon dont nous tous, nous pouvons choisir de mourir en disant, Père, entre tes mains, reçois-moi, je te remets mon esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse tout au long de cette journée. Et qu'un jour, eh bien, que le Seigneur puisse revenir le plus tôt possible pour que, en esprit, nous soyons avec lui. Et sur cette nouvelle terre, quand il aura mis fin, comme on l'a chanté tantôt, un jour, il y aura un jugement qui s'en vient. Quand le jugement aura été prononcé, quand Dieu aura réglé ses comptes avec l'humanité, eh bien, nous soyons revêtus avec notre corps de ressuscité. Nous puissions régner avec le Seigneur pour l'éternité sur cette nouvelle terre et ses nouveaux cieux. Je peux imaginer le décor. Je ne peux imaginer le décor, parce que l'on vit dans un décor qui est abîmé par le péché. La Bible nous dit que la création entière souffre les douleurs de l'enfantement à cause du péché. Mais il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de diable, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort sur cette nouvelle terre. Frères et sœurs, ça vous donne une idée de la grandeur que représente le paradis. Frères et sœurs, vous êtes les invités de Dieu, non seulement à participer aux noces de l'agneau, vous les êtes les invités de Dieu pour vivre avec lui pour l'éternité. Que gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen.